Et parfois, s'il fallait s'étonner que sa survie en tant que station balnéaire ait toujours été aussi précaire. Il aurait mieux valu la baptiser carrément Arctique Sud et tirer l'échelle. Solms traversait lentement Boreas en cette belle matinée d'avril. Tout le monde roulait lentement à Boreas. Ses rues étaient étroites. Même Bay Street, son artère principale, était difficile à emprunter quand des voitures stationnaient de chaque côté et quiconque passait en ville plus d'un après-midi pluvieux apprenait à rabattre ses rétroviseurs latéraux s'il voulait les retrouver intacts à son retour. De plus, la police locale n'aimait rien tant qu'atteindre son quota de PV en arrêtant les automobilistes qui roulaient un poil au-dessus de la limite de vitesse. Cette sage conduite tenait peut-être à l'héritage allemand ultérieur de Boreas, qui encourageait un certain sens de l'ordre et le respect de la loi. Des luthériens allemands s'étaient installés dans le Maine au milieu du XVIIIe siècle, fondant ce qui était maintenant Waldoboro, mais qu'on appelait à l'époque Broad Bay. On leur avait promis des maisons, une église et des vivres, ils n'en avaient jamais vu la couleur et s'étaient retrouvés échoués dans une contrée hostile. Ils avaient dû bâtir des abris provisoires, chasser le gibier local, et les plus faibles d'entre eux n'avaient pas survécu au premier hiver. Plus tard, ils s'étaient battus contre les Français et les Indiens, puis les communautés s'étaient divisées pendant la guerre d'indépendance entre ceux qui se joignaient aux Américains pour la cause de la liberté et ceux qui répugnaient à briser leur serment d'allégeance à la couronne britannique. Les Allemands étaient alors solidement établis dans le Maine. Vers la fin du XIXe siècle, une poignée d'entre eux était venue à Boreas. Ils avaient évincé les Grecs et ils y vivaient toujours depuis. Les listes électorales de la ville s'enorgueillissaient d'Ackermann, de Baumgartner, de Weber, de Kuster, de Vogel et de Wexler. Plus bas sur la côte, à Pirna, qui tirait son nom de la petite ville de Saxe d'où provenaient ses nostalgiques fondateurs, on trouvait encore des Allemands et même un petit nombre de Juifs. Un saupoudrage d'Arnstein, de Bingen, de Leven, de Rossmann et de Waxmann. Solms, d'origine anglaise par son arrière-arrière-grand-père et galloise par son arrière-arrière-grand-mère, pour quelque obscure raison personne dans la famille n'aimait évoquer la branche galloise, les considérait tous du même œil, des clients potentiels, même s'il se rappelait l'opinion bien arrêtée de son grand-père sur les Allemands, conséquence de la pénible expérience de son arrière-grand-père pendant la Première Guerre mondiale et de ses propres souvenirs de la Seconde. Se faire tirer dessus pendant des années par des types d'un même pays n'aide pas à avoir d'eux une vision positive. Solms laissa Bay Street derrière lui et tourna dans Burgess Road, fit halte devant le Sellmaker. Porte close, pas un signe de vie. Il avait déjà proposé au Tabor de s'occuper de la vente et Frank avait promis de le rappeler dans la journée. Le Sellmaker manquerait à l'agent immobilier. Son bar était accueillant et il aimait y discuter le bout de gras avec Donna Burton qui le tenait le mardi, le mercredi et tous les week-ends. C'était le genre de divorcée enjôleuse qui assurait le retour de la clientèle, enfin celle des hommes, les femmes étant moins sensibles à ses charmes et curieusement peu disposés à ce que leur mari ou leur petite amie passent un moment sans elle au Sellmaker, en présence de la barmaid. Solms ignorait ce que Donna ferait maintenant que l'hôtel fermait. Elle vivait à Pirna, où elle travaillait comme secrétaire, et son emploi à temps partiel au Sellmaker pendant l'été faisait la différence entre un hiver bien au chaud et une saison frisquette, où il lui aurait fallu régler le thermostat à quelques degrés de moins. Fred Amsel, le patron du Blackbird Bar and Grill, la ferait peut-être travailler quelques heures si sa femme Erika le lui permettait. Donna amènerait ses clients du Sellmaker et Fred pourrait faire concurrence au Brick House. Solms en toucherait un mot à Fred pour qu'il aborde la question avec Erika. Madame Amsel avait peut-être la tête de quelqu'un à qui on avait souvent claqué la porte au nez et le tempérament qui allait de pair. Mais elle était loin d'être bête dès lors qu'il s'agissait d'argent. « Qui sait ?» rêvait Solms. Quand Donna apprendrait les efforts qu'il avait déployés pour elle, elle serait peut-être même disposée à l'en récompenser par des délices charnelles. Il avait longuement songé à ce qu'une nuit avec Donna Burton pouvait offrir de délices charnelles. Ses folles pensées l'avaient soutenu pendant les années moribondes de son mariage. Redevenu célibataire, il avait fait le siège de Donna pendant deux étés avec une obstination qui aurait fait honte à l'armée grecque devant Troie.